Bonjour, nous allons donc recommencer notre après-midi avec l'exposé donc de Leone Gazziero, qui est un ancien étudiant d'Alain de Genève, qui est maintenant au CNRS, au centre de Lille, au centre de... Je ne sais plus le nom du centre, peu importe.
STL.
STL, oui, mais je ne sais plus ce que ça veut dire.
Bon, savoir texte
en
langage.
En tout cas, qui a travaillé sur la logique ancienne et médiévale, qui a un projet sur les réfutations sophistiques, entre autres, qui a édité un certain nombre de sophismes avec Alain Delibera sur la référence vide, et qui a travaillé sur le troisième homme avec un livre dont vous avez le nom dans le programme, Rationes ex machinas, la micrologie à l'âge de l'industrie de l'argument, édité en 2008 chez Vrin, et donc qui va nous parler, je reprends le titre, de Ars Sophistica, justement, très simple. Donc merci Léonet.
Merci infiniment Irène, merci infiniment Alain. C'est un honneur d'intervenir dans ce cadre pour évoquer ensemble l'art médiéval de démasquer les arguments fallacieux, qui est l'un des domaines dans lesquels s'est déclinée la logique de langue et culture latine, dont Julie Brambert a brossé tout à l'heure un tableau d'une richesse remarquable. Par sa vocation, qui est celle d'être garante du discours vrai, son domaine d'application, qui est celui d'une langue naturelle plutôt que d'un langage formel ou formalisé, et par son corpus, qui est avant tout celui des traités réunis sous l'intitulé traditionnel d'Organon, la logique médiévale ne pouvait qu'accorder une importance capitale à la traque de ce que nous appelons sophisme et que les médiévaux appelaient plutôt fallaciae. Comme le rappelait encore Jean Buridan, héritier en cela d'une longue et illustre tradition, la logique est, entre autres, mais au premier chef, extirpativa falsarum, c'est-à-dire que son rôle est de purger l'âme de ses erreurs. Cette purification consiste, pour l'essentiel, à faire le tri entre bons et mauvais arguments, ce qui explique, dans une certaine mesure au moins, l'engouement des médiévaux vis-à-vis de tout ce qui est susceptible de dérailler le cours ordinaire du raisonnement et la place de choix qu'une génération après l'autre, les médiévaux ont réservée aux sophistici elenchi d'Aristote après les avoir redécouverts à l'époque d'Abélard et de Jacques de Venise. À la toute petite échelle, une dizaine de lignes à peine du prologue du traité, je voudrais profiter de mon temps de parole pour tirer de l'oubli un commentateur doublement relapse, puisqu'il est à la fois anonyme et inédit, lequel est parvenu néanmoins à s'émanciper de la lettre du texte qu'il lisait, comme tout le monde au Moyen-Âge, dans la traduction de Boès, et à s'écarter d'une interprétation qui, encore de nos jours, est la plus répandue, en dépit du fait qu'elle est possiblement fausse. Est-ce que, une question préliminaire d'une certaine importance, puisque je vais étudier d'assez près des textes, est-ce que tout le monde a un handout ?
Non,
j'en ai quelques-uns. Non, je le laisse circuler. Les petits numéros que apparaîtront sur la présentation PowerPoint et correspondent au texte, à l'ordre des textes dans le handout. Donc notre anonyme, donc, a su s'émanciper de la lettre du texte, de la traduction de Boès, d'une part, et d'autre part, il s'est écarté de l'interprétation vulgate qui, est encore de nos jours, est la plus répandue. Comme chacun sait, l'entrée en matière des réfutations sophistiques est l'une des plus et mieux structurées du corpus des écrits d'école d'Aristote. Celui-ci part de ce qu'il considère une évidence, à savoir qu'il y a des arguments ou que les arguments se partagent un raisonnement de bons et de mauvais alois. Il identifie ensuite la cause la plus courante et la plus insidieuse des dérives du raisonnement, qui n'est autre que le langage lui-même, qui est constitutivement en décalage vis-à-vis des choses dont il se trouve parlé. Et j'aborde le tout premier texte qui figure dans le handout dans un tableau avec la traduction de Boès en regard. Pourquoi donc le langage est en décalage vis-à-vis des choses dont il parle? Epei gar, de fait, nous dit Aristote, puisque ukestin autata pragmata dialegestai ferontas, puisqu'on ne peut pas dialoguer en apportant les choses elles-mêmes, alla tois onomasin antiton pragmaton chrometha hos symbolois, mais qu'à la place des choses, nous nous servons des mots comme de symbole, hos symbolois, tos symbainon epiton onomaton, kai epiton pragmaton, egumetha symbaini. Nous croyons, egumetha, que ce qui se passe, tos symbainon, au niveau des mots, epiton onomaton, se passe aussi au niveau des choses, kai epiton pragmaton symbaini. Kathaper, epiton psephon, tois logizomenois. Ainsi que cela arrive à ceux qui calculent, tois logizomenois, au sujet des cailloux, epiton psephon. Todukestin homoion. Mais, poursuit Aristote, ce n'est pas pareil ou cela ne revient pas au même. Tamen gar onomata peperantai. En effet, les mots sont un nombre limité. Kaiton kaito ton logon plethos, de même que la multiplicité des énoncés, tade pragmata ton arithmon apeira estin, alors que les choses sont telles, innombrables ou un nombre infini. Anankaion un pleio ton auton logon kai tunomato hen semaini. Il est dès lors nécessaire que le même discours, ho autos logos, et un seul et même mot, tunomato hen, signifie plusieurs choses. Pleio semaine. Donc, si tel est le cas, et la situation semble s'imposer pour Aristote comme un fait inéluctable, hos per un kakei hoi me dei noi tas psephus ferein, tout comme dans le cas de ceux qui ne sont pas habiles à manier, c'est-à-dire à bouger sur les tables de calcul les cailloux, tas psephus ferein, hypo ton epistemonon parachruontai, se font berner ou se font tromper par ceux qui, eux, s'y connaissent, ton auton tropon, de la même façon, kai epiton logon, dans le cas des discours aussi, hoi ton onomaton tes dynameos apei roi, ceux qui n'ont pas d'expérience, ceux qui sont inexpérimentés et au sujet du pouvoir, la dynamis onomaton, le pouvoir des mots, paralogizontai, s'égarent dans leur raisonnement, kai autoi dialogomenoi, lorsqu'ils discutent avec les autres, kai allon acuontes, et quand ils écoutent les autres discuter. Je laisserai de côté deux questions encore que majeures, en me contentant de signaler que je suis l'anonymous bavaricus, notre anonyme, à tous les coups, dont j'ai reporté l'interprétation dans le dernier texte de votre handout, le numéro 10. Donc, je laisserai de côté deux questions. La première est de savoir quels sont les pragmatas que l'on peut exhiber, que l'on ne peut pas exhiber comme tel. Comme l'a souligné avec force Pierre Hadot et Gabriel Nuchelmans avant lui et Hermann Weidmann après, pragma n'a pas toujours chez Aristote une implication existentielle. C'est-à-dire que les pragmatas que l'on ne peut pas porter dans les discours ne sont pas forcément des choses concrètes ou des états de choses, comme le fait, par exemple, que tel ou tel individu soit assis, ou pas, d'ailleurs. Puisque, cependant, l'analogie avec le calcul, le prend le calcul dans sa dimension la plus courante et la plus concrète, et comme l'a bien vu l'anonyme de Bavière, et comme d'ailleurs le suggère ce que nous savons du calcul des anciens et de l'utilisation littéraire des jetons des abacs, texte numéro 8 dans votre handout, il s'agit là le calcul évoqué dans les prologues des réfutations sophistiques, il s'agit là de comptes, pour ainsi dire, d'apothicaire, hein, de calculs que l'on effectue lorsqu'on pèse de la marchandise ou lorsqu'on échange de l'argent. Je privilégierais, pour cette raison, une acception ontologiquement plutôt robuste. Il s'agit bien, il s'agit bel et bien, de choses que l'on peut toucher, peser, pointer du doigt, etc. Comme l'explique toujours notre anonyme, qui les comprend précisément de cette façon. La deuxième question que je laisserai de côté est celle de savoir ce que recouvre ici la notion de ton onomaton dynamis, le pouvoir des mots, la virtus nominum. David Lefebvre vient de publier un livre admirable au sujet de la notion de puissance chez Aristote. Or, la mention de dynamis au début des Sophistici Hellenici est, je crois, la seule occurrence qu'il n'étudie pas. Et je ne pense pas un seul instant qu'il s'agisse là d'un oubli, puisque même dans l'économie d'une somme de quelques 600 pages, comme le livre de David Lefebvre, l'auteur a eu parfaitement raison de ne pas l'aborder. De fait, la dynamis et le langage ont une longue histoire, surtout au Moyen Âge. Mais notre texte n'a pas un intérêt comparable à celui de certaines pages de Platon, de Thucydide, voire d'un certain nombre d'auteurs du Moyen Âge, et Luisa Valente en a mentionné quelques-uns à la fin de sa conférence tout à l'heure. Et disons, un passage des premiers analytiques d'Aristote illustre ce propos plutôt, disons, illustre ce point plutôt bien, puisque, comme ressort notamment des expressions que j'ai soulignées, donc, lorsque la signification, tosemainomenon, de deux expressions linguistiques est la même, tauton, c'est qu'elle signifie la même chose, tauto dynatai. Et là aussi, l'anonyme de Bavière me semble avoir dit tout ce qu'il y a à dire concernant la seule dimension qui intervient dans le prologue des Sophistici Hellenici et qui est d'ordre sémantique, c'est-à-dire que la dynamis est simplement ce que les mots veulent dire. Je le cite, « Eodem modo, in arte disputandi, qui sunt ignari virtutis nominum, vel significationis terminorum, paralogizantur. » Il en va de même pour ce qui est de l'art de la discussion. Ceux qui ignorent la valeur des mots, autant dire, vel, la signification des termes, raisonnent de travers. Puisqu'en revanche, après avoir laissé de côté deux questions, puisque, en revanche, Aristote, primo, introduit l'analogie entre les mots et les cailloux pour expliquer pourquoi ceux qui dialoguent et ceux qui calculent peuvent se tromper. Secondo, Aristote développe le versant langagier de cette analogie. C'est le versant qui l'intéresse ici. N'oublions pas qu'il s'agit d'expliquer les fautes des raisonnements et pas les erreurs de calcul. Et, en troisième lieu, Aristote reprend cette même analogie pour montrer comment on se trompe en maniant alternativement les mots et les cailloux. On conviendra aisément qu'il s'agit là du fil conducteur de ces quelques lignes. C'est pourquoi la question fondamentale que notre texte pose est de savoir si et dans quelle mesure Aristote faisait lui-même confiance à cette analogie. Autrement dit, faut-il prendre cette analogie au pied de la lettre ? Les cailloux sont au calcul, c'est que les mots sont au discours, et c'est précisément pourquoi, maniés de façon peu scrupuleuse, ils peuvent compromettre la validité de nos discussions, s'il s'agit de discuter, ou de nos résultats, s'il s'agit de compter. Ou faut-il, au contraire, Comprendre cette analogie à contresens, comme le font encore de nos jours les interprètes qui, à l'instar de Scott Schreiber, parlent plutôt d'une opposition ou d'un contraste et des analogies entre les éléments du discours et ceux du calcul. En gros, l'alternative est la suivante. Est-ce que les psephoi, les cailloux, sont là pour nous expliquer de quelle manière les onomata, les noms, se comportent, ou bien est-ce qu'ils sont là pour nous expliquer de quelle manière les noms ne se comportent pas? Pour commencer, il faut avouer que, tel que je viens de la formuler, cette alternative n'est contemplée nulle part dans la tradition latine, et pour cause. Fait assez rare pour qu'il mérite d'être signalé, la traduction de Boès était en l'occurrence tout sauf transparente, dans la mesure où Boès rendait psephoi tantôt par compoti, compte, tantôt par numeri, nombre, plutôt que par calculi, comme c'eût été assez naturel de le faire. Les maîtres latins pouvaient donc difficilement soupçonner que l'analogie est moins entre le discours et le calcul qu'entre les mots, en tant que symbole linguistique des choses sur lesquelles portent nos discours, et les cailloux, en tant que symbole logistique ou computationnel des choses sur lesquelles portent nos calculs. Si la traduction de Boès n'a pas vraiment aidé les commentateurs latins à identifier quels sont au juste les termes de l'analogie qui structure notre texte, leur familiarité avec la littérature logique de la tradition ne pouvait que les orienter vers la lecture qui nie qu'il y ait une analogie entre le discours et le calcul et qui oppose la façon dont ils sont en prise, le discours de manière équivoque, le calcul de manière univoque avec les choses. De fait, lorsqu'ils ne se sont pas plutôt attaqués à la thèse que les expressions linguistiques seraient un nombre fini, alors même que les choses dont on parle seraient-elles un nombre infini, thèse qui semble les avoir beaucoup intrigués, mais très peu convaincus, et parmi ceux qui rejettent cette prémisse du raisonnement d'Aristote, il y a Robert Kirwalby, et aussi le maître aux fesses bien charnues, le Nicolas de Paris, si on admet son identification avec l'un des champions de dames logiques dans la bataille des sept arts, le maître Nicole aux hautes nasches. Donc les commentateurs latins, lorsqu'ils n'ont pas simplement rejeté l'analogie computationnelle, en argumentant contre le nombre fini des mots versus le nombre infini des choses. Donc, les commentateurs latins ont, non sans raison, lu relativement tôt et durablement ce passage, les prologues des réfutations sophistiques, à la lumière d'un autre prologue, celui du deuxième commentaire de Boès à l'Exagogue de Porphyre. Et comme l'écrit l'un des tout premiers commentateur latin des sophistici elenchi, hoc autem non est simile, mais ce n'est pas pareil. Quia ut dicit Boetius, car comme l'explique Boès, si ex calculo centum evenerint, si cent est le résultat auquel on parvient en calculant, centum opportet res esse subiectas. Il est nécessaire que 100 soit aussi les choses sur lesquelles porte le calcul. Et quicquid in digitos recte computantis evenerit, et quel que soit le résultat auquel on aboutit en calculant correctement sur les bouts de doigts, id procul dubio in natura rerum fixum tenetur. On considérera comme indubitablement arrêté que c'est cela même qui s'est produit dans l'ordre naturel des choses. Sed non quicquid in concurso sermonum evenerit. Ce qui n'est pas le cas de tout ce à quoi l'on parvient en assemblant des discours. L'association de ces deux facteurs, la traduction de Boès et le prologue de son deuxième commentaire à les Agoguettes de Porphyre, ont, pour ainsi dire, verrouillé l'exégèse latine aux dépens de l'analogie entre les instruments du discours et ceux du calcul. Et de fait, les latins ne s'y sont pas trompés, puisque c'est précisément ce qu'on lit chez Boès qui identifie dans ce texte l'origine de la logique, l'hortus logicae, dans le besoin de compenser la symétrie dans laquelle se trouvent les différentes disciplines du savoir. Pour certaines d'entre elles, c'est le cas notamment de l'arithmétique, la correspondance entre les réalités qu'elles décrivent et la connaissance dont ces dernières font l'objet est immédiate. Pour d'autres, la physique et l'éthique, qui procèdent, elles, discursivement, cette correspondance est en revanche problématique. Pourquoi ? Parce que quoniam, explique Boès. Oui. Quoniam, per imperitiam, la peiria, imperitiam disputandi, à cause de l'inexpérience dans l'art de la discussion, quicquid ratiocinazione comprehenderant, hoc in res quoque ipsas evenire arbitrabantur. Je paraphrase plutôt que traduire ponctuellement, puisque l'erreur est celle d'Épicure et bien des autres, mais ce qui vaut pour Épicure vaut aussi pour nous. Donc, quicquid ratiocinazione comprehenderant, hoc in res quoque ipsas evenire arbitrabantur, on estime, à cause de l'inexpérience dans l'art de la discussion, on estime que tout ce que nos discours ont ficelé, tout ce qu'on a ficelé par nos discours, se passe également au niveau des choses elles-mêmes. Hic, vero, magnus est error. Il s'agit là cependant d'une erreur monumentale. Neque, enim, sese ut in numeris, ita etiam in ratiocinationibus habet. De fait, ce qui vaut pour les nombres ne vaut pas aussi pour les raisonnements. Une autre interprétation est-elle possible ? Oui, à condition de suivre une indication de Theodor Weitz, comme l'a fait notamment Paulo Feit de manière très convaincante. Patet, donc, Weitz rappelle le lemme Toduc esti homoion, mais cela n'est pas pareil. Non recte hec interpretatur Alexander, c'est le commentaire du pseudo-Alexandre, en réalité Michel Defez, aux réfutations sophistiques d'Aristote. Donc, Michel Defez ne l'interprète pas de façon correcte. Patet enim ex sequentibus sensum huius loci hunc esse. Il ressort de manière manifeste de ce qui suit que le sens de ce passage est le suivant. Toduc esti homoion to epiton onomaton symbainon kai to epiton pragmaton. Ce n'est pas que l'analogie s'arrête entre le discours et le calcul, mais c'est simplement que la cause de ce manque, la cause de l'asymétrie entre le langage et les choses, laquelle est analogue à celui au décalage du calcul, tient au fait que les mots sont en nombre fini et les choses sont en nombre infini. Donc, une autre interprétation est-elle possible ? Oui, si l'on suit cette indication de Theodor Weitz. Le plus simple est encore de lire cette interprétation chez notre anonyme de Bavière, qui, en dépit de cumuler les désavantages qu'on a vus, a su retrouver le fil conducteur de l'analogie entre les mots et les cailloux, et surtout a su ne pas le perdre dans les méandres du texte, comme je voudrais le montrer en lui laissant la parole pour conclure. Et je lis directement la traduction. Lorsqu'il dit « tout comme », Aristote établit une similitude et il affirme que ce qui arrive à ceux qui comptent en effectuant des calculs est semblable à ce qui arrive ici. C'est-à-dire lorsqu'on du fait de ne pas pouvoir apporter les choses dans le discours, on se sert des mots comme de leurs symboles. En effet, il pose, c'est-à-dire ceux qui calculent, pose parfois qu'un caillou tient lieu d'un livre, un deuxième caillou tient lieu d'un deuxième livre, et un troisième caillou tient lieu d'un troisième livre. Si bien que, comme il y a trois cailloux, il croit que les deniers ou les sous qu'il faut payer pour les trois livres sont aussi trois. Pareillement, au cas où on poserait qu'un seul caillou tient lieu de 20 livres et qu'un deuxième caillou a la même valeur, le compte n'y sera plus lorsqu'on additionnera d'un côté le nombre de cailloux et de l'autre le nombre de livres. De la même manière, du côté des mots, puisqu'on les utilise comme symboles à la place des choses, nous croyons alors que ce qui se passe au niveau des mots se produit aussi au niveau des choses. Ensuite, lorsqu'Aristote dit « mais cela n'est pas pareil », mais il identifie la cause liée à cet inconvénient qu'est l'homonymie, et il affirme que l'inconvénient tient à la multiplicité des choses signifiées. Cette thèse, il l'énonce ainsi, mais cela n'est pas pareil. Et cela doit être ramené, retorquere, c'est les allers-retours auxquels je faisais allusion, cela doit être ramené à ce qui a été dit avant au sujet de l'apparence fallacieuse, c'est-à-dire que la cause de cette tromperie, qu'est l'homonymie, intervient quand nous croyons que la même chose se passe et au niveau des choses et au niveau des mots. Comme lorsque on croit que, puisqu'il y a une seule expression proférée, il y a une seule chose aussi. Mais ce n'est pas pareil, car parfois, une seule et même expression proférée signifie cependant une pluralité de choses. Et c'est cette pluralité de signification qui nous induit en erreur. Merci. Thank you.